Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. À 18h20, mon invitée, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, viendra nous parler de ces nouvelles prépas talents, ces classes préparatoires destinées aux élèves méritants qui seront mises en place dès la rentrée prochaine dans toute la France. Ça y est, on a la liste. Elle nous dira en quoi ça consiste exactement et qui ça concerne. Elle souhaite sortir de la France de Balzac et qu'on n'ait plus besoin de monter à la capitale pour réussir. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra notamment sur ce lien que certains n'hésitent plus à faire entre terrorisme et immigration après le drame de Rambouillet. Et puis entre 19h20 et 20h, ce sera votre club des idées consacré ce soir au live shopping, cette technique de e-commerce qui émerge en France depuis le premier confinement après avoir fait ses preuves en Chine, sorte de téléachat 2.0, une pratique dans laquelle les influenceurs jouent un rôle clé. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 18h.
On va essayer de le décaler, promis. On va voir. Parce que 19h c'est tôt, je suis d'accord. 19h c'est très tôt.
Rentrée des classes pour les écoliers et rentrée des classes aussi pour Emmanuel Macron en déplacement dans une école de Melun. Le chef de l'État envisage de décaler le couvre-feu.
Cela fait partie en tout cas des pistes de réflexion de l'exécutif qui ne donne aucune échéance alors que la première phase du déconfinement approche. Explication dès le début de ce journal.
Ils sont donc retournés à l'école. Rentrée des classes pour les élèves de maternelle et de primaire. Test salivaire au programme pour les enfants et autotest pour les enseignants.
Des paroles aux actes. Bruxelles attaque AstraZeneca en justice pour ne pas avoir respecté son contrat de livraison de vaccins à l'Europe.
L'affaire du meurtre de Sarah Halimi, un rapport parlementaire prône le statu quo sur l'irresponsabilité pénale et défend la loi actuelle. La remettre en cause, c'est remettre en cause notre édifice pénal, disent les députés.
Nous serons à Rambouillet où la ville rend ce soir un hommage à la policière assassinée par un terroriste.
Les Oscars du cinéma, Florian Zeller récompensé pour The Father, un Oscar aussi pour Colette, film documentaire qui suit une retraitée cannaise sur les traces de son frère. Et puis la Bourse de Paris termine en hausse de 0,28% à 6275 points.
La météo. Bonsoir Laurent Cabrol.
Bonsoir Isabelle.
Pluie au sud, soleil au nord demain.
Oui, bah nous avons de la pluie au sud et on en veut encore. Et puis sur la moitié nord, nous avons du soleil et nous en aurons encore plus demain. Et il fera plus chaud et je vous dirai pourquoi.
Et vous nous détaillerez ça effectivement d'ici 10 minutes.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Il a suffi d'une phrase. C'était en fait une réponse à la question de cet élève qui est retourné en classe ce matin dans une école élémentaire de Melun. Emmanuel Macron y était aussi. Et elle a souligné le côté un peu énervant du couvre-feu.
Et il lui a répondu qu'effectivement, bien 19h, c'est peut-être un peu trop tôt. Le chef de l'État assure que le gouvernement va essayer de le décaler un peu, ce couvre-feu. Alors on ne sait pas jusqu'où, mais le chef de l'État a donné quelques pistes supplémentaires par ailleurs sur le calendrier et sur ce qui nous attend, Claudia Bertram.
Oui, 4 étapes de réouverture. C'est ce qu'a esquissé Emmanuel Macron, qui a également répondu aux questions des badauds à Melun. 4 étapes donc entre début mai et fin juin. On le savait, il y a le 3 mai avec la fin des restrictions de circulation, la mi-mai avec la réouverture des terrasses. La date sera affinée dans les prochains jours, a indiqué le chef de l'État. Ensuite, une troisième phase début juin et enfin mi ou fin juin. Les restaurants, eux, pourraient rouvrir progressivement en plusieurs étapes et selon la situation dans les départements, a laissé entendre le chef de l'État.
On va sans doute fixer un seuil de taux d'incidence. Je pense qu'on ne peut pas rouvrir les restaurants, disons fin mai ou courant juin, dans des départements où ça circule encore beaucoup. Dans d'autres où ça a beaucoup baissé, je pense qu'il faudra les ouvrir. On fera des étapes d'ouverture et chacune dépendra des résultats qu'on a obtenus. On regarde toujours pendant 10-15 jours comment consolider les résultats.
Le président qui a précisé que certains lieux culturels pourraient rouvrir dès les premières phases avec des jauges réduites. Emmanuel Macron devrait s'exprimer prochainement pour préciser ces étapes de déconfinement. D'après nos informations, ça pourrait être avant le 5 mai.
Et Claudia Bertram du service politique d'Europe 1, l'épidémie qui reflue très lentement, un peu plus de 24 000 cas positifs enregistrés en 24 heures et des hôpitaux toujours débordés dans certaines régions. Près de 6 000 malades sont dans une unité de soins intensifs.
Tandis qu'en Italie, on entrevoit le bout du tunnel. Les bars et les restos sont autorisés à ressortir leurs terrasses. Service jusqu'à 22h, c'est-à-dire jusqu'au couvre-feu qui lui reste en vigueur.
Les cinémas, les théâtres et les salles de concert peuvent accueillir du public. La jauge ne doit pas dépasser la moitié des capacités de la salle. Un petit pas vers la normalité qui fait du bien. Reportage à Rome, Blandine Hugonnet.
Le centre de Rome a soudainement repris vie depuis ce matin. Les terrasses des cafés et les restaurants se remplissent. Derrière le comptoir de son café, Michele se réjouit de pouvoir accueillir à nouveau ses habitués à table toute la journée après des semaines de fermeture.
On a réinstallé les tables et les chaises dehors et ça fait déjà bien revenir la clientèle. Il manque juste les touristes. On espère qu'ils vont revenir rapidement d'ici l'été.
Attablé au soleil avec trois amis, Giuseppe a enlevé son masque pour racler la dernière bouchée de tiramisu après un plat de pâtes maison qu'il a particulièrement savouré en ce premier jour de réouverture des terrasses.
C'est le goût de la liberté parce qu'on nous laisse enfin la possibilité de vivre en allant au restaurant, en se mangeant un bon plat de pâtes. Ça aide aussi l'activité à se relancer après une période aussi difficile que la pandémie.
Une liberté retrouvée à partir d'aujourd'hui à Rome et dans toutes les régions considérées à risque modéré grâce à une baisse continuelle, notamment des cas graves. Cinéma, théâtre, musée sont aussi autorisés à rouvrir dès aujourd'hui après 6 mois d'arrêt. Mais dans les rues animées de Rome, on le sait, cette fois-ci, cette grande phase de réouverture ne sera définitive qu'à condition que les Romains respectent rigoureusement les gestes barrières et le couvre-feu, maintenu au niveau national à 22h. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
L'Italie qui respire un peu donc, tandis que l'Inde est littéralement asphyxiée par l'emballement de l'épidémie. Le pays manque de tout, d'oxygène, de respirateurs et de lits d'hôpitaux.
Près de 350 000 cas enregistrés hier et des services d'urgence qui débordent. Certains patients meurent à la porte des hôpitaux faute d'oxygène en quantité suffisante. La France va envoyer des respirateurs. D'autres pays européens ainsi que les États-Unis ont prévu d'apporter leur aide.
Alors la France n'est pas dans ce cas, bien sûr, mais la réouverture des écoles n'est pas sans danger. Et alors que certains spécialistes soulignent que l'épidémie recule lentement, trop lentement, le gouvernement, lui, tient son cap.
L'objectif, c'est de tenir 10 semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ce matin, les écoles maternelles et primaires ont rouvert les classes. Le protocole est plus strict, fermeture de la classe dès l'apparition du premier cas, ce qui pourrait provoquer les mêmes fermetures en série observées avant les vacances.
Et parmi les nouveautés de cette rentrée, vous le savez, il y a les tests salivaires. 400 000 dès cette semaine, promet le Premier ministre. Ils seront distribués aux écoliers et aux enseignants. À Marseille, ils ont déjà été livrés aujourd'hui, notamment à l'école élémentaire de la Capelette. Vous y étiez pour voir comment les choses se passaient, Stéphane Frangy.
Oui, ce n'est pas facile pour le personnel éducatif qui découvre ces autotests le jour même. Les inspecteurs académiques, comme Olivier Fortoul, ont été d'ailleurs bombardés de questions.
Ces tests sont à faire soi-même, une collègue peut nous le faire parce que c'est un peu...
Alors, je pense que sur les premiers temps, on se fera aider, on fonctionnera peut-être en binôme parce que ça n'est pas simple de savoir comment se placer le covillon et savoir où s'arrêter.
Voilà, deux tests à faire chaque semaine, que l'on soit symptomatique ou non. Le dispositif est rapide, résultat en 15 minutes. Reste maintenant à l'appris et sensibiliser les équipes pour la directrice Emmanuelle Katmerkel.
Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est maintenant, pour tout de suite. Ça me paraît assez clair. Maintenant, il faut voir quand on va appliquer, si on va s'en sortir, si les collègues vont jouer le jeu aussi, parce que ça aussi, c'est pas évident. C'est pas anodin comme geste non plus. Pour les rassurer aussi sur le fait que c'est pas dangereux.
Parmi les enseignants, Caroline Pereira est plutôt réceptive, même si elle plaide pour sa part pour une utilisation raisonnable.
Après, moi, je pense qu'il faut pas tomber dans l'auto-testite aiguë. Il faut quand même les utiliser à bon escient, de manière pertinente.
Voilà, et ces autotests, on le sait, seront déployés le moment venu auprès des lycéens.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. La campagne de vaccination, 14 millions de Français ont reçu au moins une dose, 5,5 millions ont reçu deux doses de vaccin contre le virus. Les patients qui rechignent toujours à choisir AstraZeneca, Bruxelles de son côté tape du poing sur la table.
Oui, puisque l'Europe attaque le laboratoire anglo-suédois en justice et lui reproche, Isabelle Horry, de ne pas avoir respecté son contrat de livraison.
Exactement, AstraZeneca n'a pas été capable de mettre en place une stratégie fiable pour délivrer les doses prévues aux Européens. C'est l'argument employé par la Commission européenne pour justifier cette action en justice. La Commission et les 27 pays de l'Union attaquent ensemble le géant suédois qui n'a cessé de les décevoir. Je vous rappelle les chiffres, 30 millions de doses livrées au lieu des 100 attendues au premier trimestre et 70 millions produits pour le deuxième trimestre, alors que les Européens en espéraient 180. Cet après-midi, la réponse d'AstraZeneca n'a pas tardé. Nous nous défendrons avec vigueur devant le tribunal, répond l'entreprise dans un communiqué. Nous faisons des progrès, mais le cycle de production d'un vaccin est très long et donc cela prend du temps, plaide AstraZeneca. Le labo assure aussi qu'il va livrer 50 millions de doses ce mois-ci et il affirme qu'il est quasiment le seul à fournir des doses à l'initiative COVAX pour les pays les plus pauvres. Ça ne semble pas émouvoir la Commission européenne. Son objectif à elle, c'est
permet d'accélérer les livraisons. La plainte est un moyen de pression, même si la procédure devant la justice belge va sans doute prendre plusieurs mois.
Merci beaucoup, on suivra ça avec vous. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1, en direct de Bruxelles, 18h09. Et si l'affaire du meurtre de Sarah Halimi faisait changer la loi sur la responsabilité pénale? En tout cas, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a indiqué qu'il allait présenter un projet de loi fin mai.
Oui, au moment où l'on apprend qu'un rapport parlementaire commandé l'an dernier par sa prédécesseur Nicole Belloubet préconise au contraire un statu quo, Marion Dubreuil.
Oui, c'était pourtant le même climat d'émotion qu'aujourd'hui. La chambre d'instruction avait conclu à l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, en proie à une bouffée délirante à cause d'une consommation de cannabis. Même incompréhension, même révolte aussi. La seule chose qui a changé depuis, c'est que la décision est aujourd'hui définitive. Mais pour les auteurs de ce rapport, il ne faut pas toucher au principe de l'irresponsabilité pénale. Si le discernement est aboli au moment du crime, on ne peut pas retenir l'intention, sous peine, je cite, de menacer notre édifice pénal. En clair, même dans l'hypothèse où le mis en cause a consommé volontairement des substances toxiques, c'est le cas du meurtrier de Sarah Halimi, et qu'il a ensuite commis un crime sans en avoir conscience, on ne peut pas retenir ce rôle actif au départ, avant la commission de l'infraction. Les parlementaires estiment que la justice a déjà la possibilité de retenir l'altération du discernement pour engager la culpabilité de l'auteur quand il commet des infractions sous les effets de stupéfiants ou de médicaments, avec des peines de prison réduites.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h12, c'est la suite de votre journal, Christophe Lamarre. Et trois jours après l'attaque terroriste qui a endeuillé la France, Rambouillet, cette commune des Yvelines, rend un hommage solennel à Stéphanie, sa policière assassinée.
Oui, les habitants de la commune étaient appelés à se réunir à 17h30 devant l'hôtel de ville. Un moment de recueillement sobre, selon la maire Véronique Matillon. Et il y a beaucoup de monde pour saluer la mémoire de cette agente administrative. Stéphanie avait 49 ans. Il y a des collègues aussi. Raymond est un policier à la retraite. Il connaissait bien Stéphanie pour l'avoir formée au métier de policier.
C'est foudroyant, on ne peut pas expliquer, il n'y a pas de mots pour exprimer un geste pareil. On ne peut pas se figurer que sur cette terre, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier une personne, une famille qui va être traumatisée à vie. C'est dramatique, je ne peux pas vous expliquer, voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis anéanti. Voilà.
L'émotion de Raymond, policier à la retraite au micro Europe 1 de Justin Morin. Policiers, gendarmes et policiers municipaux se sont rassemblés un peu partout en France aujourd'hui à la même heure symboliquement, eux aussi pour rendre hommage à la jeune femme.
Et puis du côté de l'enquête, eh bien, les choses avancent. Trois personnes sont toujours en garde à vue ce soir. Le père de Jamel Gorchen et deux de ses cousins sont en garde à vue. Le couple qui servait de domicile administratif aux terroristes a été relâché. Aucune poursuite n'est enclenchée à son encontre à ce stade.
Dans l'actualité également, Renault qui va progressivement brider la vitesse de tout ces véhicules à partir de l'année prochaine.
180 km/h, ce sera désormais la vitesse maximale des voitures produites par le groupe. Mesure de sécurité, affirme le patron de Renault. Ce système de régulation électronique a un nom, Safety Coach. En anglais, c'est toujours plus chic. Il pourra analyser plusieurs situations en temps réel. Cet espion qui vous veut du bien pourra réduire automatiquement votre vitesse dans les zones dangereuses, les ronds-points et en fonction des limitations de vitesse locale. Attention, les modèles de la marque Alpine ne sont pas concernés.
Ah bon, tiens, du cinéma pour finir. Christophe, avec les Oscars qui ont consacré le triomphe de Nomadland, c'est l'histoire d'Américains âgés qui sont obligés de vivre dans leur camionnette. La réalisatrice Chloé Zhao est la deuxième femme de l'histoire sacrée meilleure cinéaste.
Et côté français, Florian Zeller est récompensé pour la meilleure adaptation de sa pièce. Le père de Father, en anglais dans le texte, le prix du meilleur rôle pour l'acteur Anthony Hopkins. Une récompense aussi pour le documentaire franco-américain Colette, l'histoire d'une ancienne résistante cannaise partie sur les traces de son frère. Hier soir, le cinéma français était donc à l'honneur, Angèle Châtelier.
A commencé par Florian Zeller et son premier film The Father, avec lequel il a raflé deux Oscars, celui du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur pour Anthony Hopkins, qui tient le rôle principal, celui d'un homme âgé face à sa démence.
J'ignore ce qu'elle complote contre moi, mais elle complote quelque chose, j'en suis certain.
Quelques minutes après avoir remporté ces deux Oscars, Florian Zeller était très ému au micro de Mathieu Béliard.
Pour moi, c'était une joie très particulière de partager ça avec Anthony Hopkins, parce que j'ai écrit, j'ai pensé, j'ai espéré ce film pour lui. Partager ce moment avec lui, c'est quelque chose de... Voilà, une joie immense.
Autre émotion non contenue, celle de Colette Marin-Catherine, à l'honneur du film Colette, prix du meilleur court-métrage documentaire, qui retrace son pèlerinage sur les traces de Jean-Pierre, son frère, déporté dans un camp de concentration allemand en 1943.
J'ai passé la nuit debout. Ce film qui met mon frère en valeur et qui décrit le beau garçon d'1m80, que c'était ses qualités, son intelligence et tout ça. Ça le fait revivre.
Enfin, autre Français qui repart avec un Oscar, Nicolas Becker, designer sonore, qui gagne cette année le prix du meilleur mixage son pour Sound of Metal, un film qui raconte l'histoire d'un batteur de heavy metal face à sa perte d'audition.
Moi, j'aime bien le heavy metal.
Ça ne m'étonne pas de vous.
Ça, mais franchement, Angèle Châtelier pour le reportage du service culture d'Europe 1, bien sûr.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30. Laurent Cabrol, vous nous disiez tout à l'heure que ce serait mieux au nord qu'au sud demain, c'est ça hein?
Bah oui, demain il y aura beaucoup de soleil sur la moitié nord et comme les vents vont se calmer un petit peu, eh bien ce sera encore plus agréable qu'aujourd'hui sur des régions comme toutes celles qui bordent la Manche, la Champagne-Ardenne, sur Paris, Frabeau, Lorraine, Alsace, Bourgogne, le centre, ce sera vraiment sympa. Alors que sur le sud, il va pleuvoir, mais c'est une pluie dont nous avons besoin. On en veut, on en redemande. Bonsoir. Là, il commence à pleuvoir, ça commence vraiment, enfin à pleuvoir. Il pleut depuis ce matin, mais ça commence à se renforcer sur le littoral méditerranéen, notamment avec des orages. Et cette pluie est salutaire pour tous ceux qui attendent que leur sol soit enfin rafraîchi et enfin restauré, parce que vraiment, il fait trop sec, c'est la sécheresse de surface qui fait office aujourd'hui de salutaire. Nous allons vivre des températures de 14 à 22 degrés, 14 à Cherbourg, 22 à Blois demain, 18 à Marseille, 20 à Rennes et 21 à Paris.
Merci Laurent Cabrol, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h20, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonsoir Amélie de Montchalin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Alors, un mot d'abord, si vous le voulez bien, de l'actualité du jour, puisque nous avons la chance d'avoir un membre du gouvernement avec nous. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a laissé entendre à une petite fille que le couvre-feu pourrait être assoupli. Il a dit 19h, c'est trop tôt. Vous allez reculer le couvre-feu, Amélie de Montchalin, ça y est, c'est décidé.
Ce que je peux vous dire, c'est que oui, on travaille pour que progressivement les restrictions qui sont aujourd'hui imposées à tous les Français puissent progressivement être levées. Ce n'est pas un scoop, c'est l'ordre des choses, alors que maintenant nous avons un nouvel outil dans notre boîte à outils qui est le vaccin. Mm-hmm. Donc effectivement, je peux vous dire, un certain nombre de restrictions, je peux vous parler du télétravail. Aujourd'hui, on incite tous les Français de tous les secteurs, publics et privés, à télétravailler au maximum. Viendra un jour où on arrêtera de dire que c'est forcément 4 jours par semaine minimum.
Un jour, c'est bientôt ou c'est...
Eh bien, donc tout ça, c'est ensuite un calendrier qui sera précisé. Le but n'est pas de faire des surprises aux Français, c'est d'organiser les choses. Et le président de la République aura l'occasion de s'exprimer, ainsi que tous les membres du gouvernement, pour redonner de la clarté sur les prochaines étapes. Mais je pense que tous les Français ont bien conscience que les restrictions d'aujourd'hui n'ont pas vocation à durer outre mesure à partir du moment où deux choses se passent. Un, que chacun reste pleinement responsable. Parce que tout ce qu'on se dit là, ça dépend de la capacité de chacun d'entre nous à faire ce qu'il a à faire. Et nous savons tous très bien quand nous mettons les uns et les autres, nous-mêmes et d'autres, en danger, quand on ne respecte pas les gestes barrières, quand on se réunit,
oui,
etc.
Mais
et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi je suis la ministre des agents publics et donc de ceux et celles qui, dans les hôpitaux, sont au front depuis maintenant de très nombreux mois. Et il nous faut nous assurer à tout moment que nous... maîtrisons la situation dans les hôpitaux et que nous donnons des moyens à ceux et celles qui sont des soignants et aident l'ensemble de nos habitants et de concitoyens à traverser cette crise sanitaire.
Est-ce que vous savez quand et de quelle façon le président a l'intention de communiquer sur les modalités de ce déconfinement ?
Alors, il a des équipes qui peuvent vous en parler et ce n'est pas un ministre de faire l'agenda du président, mais il s'exprimera en temps voulu. Et ce qui est certain, c'est que depuis le début de la crise, nous avons plusieurs principes. Un principe de transparence, toutes les données sont publiques. Nous essayons de donner de la clarté, des échéances, et nous essayons surtout de ne pas gérer les choses avec surprise. Donc, les choses vont s'organiser.
Bien. Alors, Amélie de Montchalin, on se souvient de cette phrase d'Emmanuel Macron en février qui voulait ouvrir la voie d'accès à des prestigieuses écoles d'administration à des jeunes d'origine modeste afin que plus aucun gamin dans notre République se dise « ce n'est pas pour moi », avait déclaré le président. Il avait annoncé la mise en place d'une nouvelle voie talent réservée à des jeunes d'origine modeste ou des quartiers défavorisés. Depuis, il a annoncé la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration. Et si vous êtes là ce soir, Amélie de Montchalin, c'est pour nous parler justement de ces nouvelles prépa talents qui doivent favoriser la diversité sociale dans la fonction publique. On va prendre le temps de détailler tout ça avec vous ce soir. L'idée, donc, c'est de diversifier les modes de recrutement.
La première idée, c'est que la fonction publique a toujours été, depuis la Troisième République, un moteur d'ascenseur républicain, un moteur d'égalité des chances. Parce que nous recrutons uniquement sur la base des mérites et des vertus et des talents. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, il faut qu'on soit lucide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans notre pays parce qu'ils sont nés dans un village rural, parce qu'ils ont grandi dans ce qu'on appelle un quartier prioritaire, une banlieue, parce que leurs parents n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont intégré une idée qui est très dangereuse. Ils se sont dit « ce n'est pas pour moi, c'est pour d'autres ». Et moi, en tant que ministre de la fonction publique, je ne peux pas accepter que des jeunes qui auraient envie de servir leur pays, qui ont du talent, qui ont d'excellents résultats académiques, se disent que le service de l'intérêt général est réservé à d'autres. Notre enjeu avec le président de la République, c'est d'ouvrir notre fonction publique à toute cette jeunesse talentueuse, méritante, qui veut servir les autres.
Et concrètement, ça va se passer comment ? Qui pourra y prétendre ? Combien d'élèves ?
Vous êtes un élève boursier, vous êtes à l'université. Vous aurez au moins dans deux universités par région. Et la carte des classes est donc sur le site de mon ministère, transformation.gouv.fr. Dans au moins deux universités par région, vous aurez une classe prépa qui s'appelle Talents du service public, qui vous préparera au concours de la fonction publique et dans l'encadrement de la fonction publique. Ces concours, ils vous préparent à devenir directeur d'hôpital, commissaire de police, magistrat, inspecteur des finances publiques, peut-être préfet. Bref, l'ensemble des concours qui font l'entrée dans ces corps d'encadrement de l'État.
Comment on s'assure qu'il n'y a pas que des bons élèves là-dedans ?
Ben, on s'assure d'abord qu'il y ait des excellents élèves, oui. Des boursiers qui vont pouvoir s'inscrire en faisant un dossier, en passant un oral, en montrant aussi leur force de caractère, leur sens de l'intérêt général, leur envie de servir leur pays. Et cette classe prépa vous donnera accès à d'abord une formation de très grande qualité pour préparer ces concours, à du tutorat, parce qu'il y a plein de choses qui ne s'apprennent pas dans les livres, à un complément de bourse de 4 000 euros, parce qu'on investit pour que les barrières matérielles ne soient pas là, pour que vous n'ayez pas à faire un petit boulot en plus. Au fait que vous auriez aussi, il y aura un conventionnement avec le CROUS pour que le logement étudiant soit rendu plus accessible. Et surtout, cette année sera une année diplômante. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se dire qu'ils préparaient bien un concours, mais ils ne sont pas certains de réussir. Par définition, c'est un concours. Et ils se disent, ben voilà, si c'est une année blanche, c'est trop d'engagement. Donc, ce sera une année diplômante pour que cette année d'engagement très fort soit reconnue. Et donc, moi, j'invite aussi ce soir tous les Français, qu'ils soient eux-mêmes dans cette situation d'études, ou parce qu'ils connaîtraient des jeunes qui pourraient être intéressés, à se dire que nous avons, alors que nous sortons d'une crise sanitaire, notre pays à reconstruire face à des chocs du XXIe siècle, numérique, écologique, on parle des valeurs de notre pays, on parle des inégalités, on parle de ce rapport aussi à la science, à la technologie, on a des énormes défis devant nous. Mmh. Et on a besoin de toute notre jeunesse, d'une nouvelle génération de hauts fonctionnaires.
Et de profils différents donc, et de ceux
besoin,
qu'on a aujourd'hui.
Effectivement, que, vous voyez, autour de la table des décisions publiques, il y a des regards aussi. Le regard de ceux qui ont vécu dans des zones rurales, le regard de ceux qui viennent de milieux modestes, ça rendra la décision publique meilleure et ça permettra, j'en suis absolument certaine, de faire que les Français auront davantage confiance dans une administration dont ils savent qu'il leur ressemble plus.
En tout cas, au moins deux nouvelles prépa talents dans chaque région, c'est ce que vous nous annoncez ce soir. Alors j'ai la carte sous les yeux, il y en aura par exemple à Nevers, à Reims, à Montpellier, à Agen, à Libourne, à Marcy-l'Étoile, à Tourcoing, à Brest. 73 donc en tout répartis dans tout le pays. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que c'est important aussi de dire aux jeunes, il n'y a pas forcément besoin de monter à la capitale comme on dit pour réussir.
Vous savez, au 19e siècle, Balzac écrivait des romans où globalement, pour faire son ascension sociale, il fallait prendre sa valise et monter à Paris. Bon, on n'est plus au 19e siècle. Et je pense que nulle part dans le contrat républicain, il y a écrit « pour prendre sa place dans la République, il faut passer par Paris ». On a des universités aujourd'hui de très grand niveau, partout dans le territoire. On a des jeunes excellents dans chacune de nos universités. Et bien que vous soyez à Valenciennes, que vous soyez à Angers, que vous soyez effectivement à Agen, et bien vous avez votre place. Alors, ce n'est pas une place garantie, c'est un concours. Ça reste un concours exigeant, un concours sélectif, parce qu'on a besoin d'excellence. Mais on ouvre les portes à toute l'excellence de notre pays. Et je le redis, c'est à la fois une diversité sociale, mais aussi une diversité territoriale. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui, parce qu'ils ont grandi dans des petites villes, ou dans des zones plus rurales, ou dans des universités, à Limoges, à Clermont-Ferrand, qui n'imaginent pas que, parce qu'ils n'iront pas à Paris, eh bien, ils n'imaginent pas se projeter dans ces métiers, qui sont des métiers de sens, qui sont des métiers d'utilité. La jeunesse de notre pays a envie de s'engager. Quel plus bel engagement que de servir son pays face à un 21e siècle où on sort d'une très grande crise et on a devant nous d'immenses défis.
Merci beaucoup, en tout cas, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition de la Fonction publique, d'être venue en direct
de
la Transformation publique pour nous parler de ces nouvelles prépa talents dont on peut retrouver la carte sur le
site
de votre ministère.
transformation.gouv.fr et j'espère que beaucoup de jeunes trouveront à s'engager. En tout cas, on a besoin d'eux et on est fiers de tous ces hauts fonctionnaires qui servent leur pays. Et c'est pour eux et pour les nos concitoyens qu'on le fait.
Eh bien, on l'espère également. Merci beaucoup, Amélie.
Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h31, le rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
L'exécutif envisage de décaler le couvre-feu sans donner plus de précisions. En déplacement dans une école de la région parisienne, Emmanuel Macron a estimé que 19h, c'était un peu tôt. Le chef de l'État affirme que la réflexion est entamée au sein du gouvernement. Quant aux restaurants, leur réouverture pourrait varier d'un département à l'autre. Le président ne pense pas qu'ils pourront rouvrir fin mai ou courant juin dans les départements où le virus circule beaucoup. La rentrée des classes, donc pour les écoliers de primaire et de maternelle, protocole strict. Un seul cas positif entraînera la fermeture de toute la classe. 400 000 tests salivaires seront distribués cette semaine, promet le Premier ministre. Les enseignants devront également se tester. Enfin, Bruxelles attaque AstraZeneca en justice. La Commission européenne porte plainte contre le laboratoire anglo-suédois accusé de ne pas avoir respecté ses engagements en matière de livraison.
Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Laurent Cabrol, on vous retrouve. Laurent, la pluie que l'on attendait sur la moitié sud, en tout cas, est arrivée.
Oui, elle est là et elle est bel et bien présente en ce moment. Elle se renforce. Nous voyons des orages arriver vers La Ciotat. La région PACA est bien arrosée, le sud-ouest est bien arrosé, mais ça n'est pas encore suffisant. Demain, il y en aura encore de la pluie et on sera contents, tous ceux qui habitent la moitié sud, en tout cas qui travaillent la terre. Sur la moitié nord, il a fait beau, il fera beau demain, les vents vont se calmer, ce sera encore plus agréable qu'aujourd'hui à Paris, à Caen, à Lille, à Strasbourg, à Nantes, à Orléans. Vous allez vraiment vous régaler et les températures maximales demain entre 14 et 23 degrés.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h33, on ouvre le débat de nos grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve, Laurent Baudin, éditorialiste au journal L'Alsace. Bienvenue dans les grandes voix d'Europe 1, Laurent Baudin.
Merci, Isabelle.
Et Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction du journal Ouest France à Paris. Bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir. À tous les trois de m'accompagner ce soir. Je voudrais qu'on vienne d'abord sur la question de la responsabilité pénale relancée par l'affaire Sarah Halimi. Plus de 25 000 personnes réunies hier à travers toute la France pour réclamer justice pour cette sexagénaire juive assassinée en 2017. Alors, la Cour de cassation, on le rappelle, a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier suite à une bouffée délirante à cause d'une grande consommation de cannabis. Elle a cependant entériné le caractère antisémite du crime. Et cette décision, eh bien, elle suscite l'émoi, d'ailleurs bien au-delà même de la communauté juive.
Il ne s'agit pas d'une bouffée délirante, mais bien d'un crime antisémite et islamiste. Quel que soit leur parcours, il n'y a aucune excuse à cela, ils font un choix conscient.
C'est pas parce qu'on a fumé un joint qu'on est exclu d'être jugé.
Voilà, des manifestants hier au rassemblement de soutien pour réclamer justice pour Sarah Halimi. Vous comprenez bien sûr, messieurs, l'émoi suscité par cette affaire. Le président de la République lui-même a demandé un changement de loi. L'exécutif obligé de modifier la loi sous la pression populaire, Charles Villeneuve.
Mais vous savez, dans son arrêt, la Cour de cassation a laissé de toute façon au législateur de modifier la loi. En réalité, c'est ce que le ministre de la Justice saisit comme prétexte pour justement présenter une nouvelle loi, notamment en mai, pour qu'elle soit votée par l'Assemblée nationale, si je calcule bien, en juin.
Oui.
Et rappelez-vous l'arrêt, la loi sur l'irresponsabilité, l'arrêt du 14 avril de la Cour de casse sur l'affaire Sarah Halimi, la loi sur l'irresponsabilité pénale ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui a fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes. Or, le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer. Et vous savez que Mme Belloubet avait demandé à deux députés, l'un de la majorité...
J'allais y venir, oui, parce que c'est assez troublant quand même, ce rapport.
L'un de la
rapport.
Majorité et l'autre des Républicains, Philippe Houillon, de regarder si on pouvait de toute façon modifier la loi sur les responsabilités pénales. Et la conclusion de ce rapport, c'est qu'on ne touche à rien. Mais l'arrêt de la Cour de casse du 14 avril permet aux gardes des Sceaux de considérer que la décision de la Cour de cassation qui constate l'absence de possibilité offerte par le droit actuel de tenir compte de la prise volontaire de substances toxiques, c'est l'expression importante, par un individu conduisant à l'abolition de son discernement. Le gouvernement présentera donc fin mai une loi pour combler ce vide juridique.
Mais c'est vrai que c'est quand même troublant.
Mais c'est une loi de
circonstance,
qu'on appelle une loi de circonstance.
Parce que ce rapport, en gros, c'est ce que vous disiez, hein, Charles Villeneuve, il dit qu'il ne faut pas remettre en cause la loi actuelle, remettre en cause les responsabilités pénales d'une personne atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement. Ça aboutirait à remettre en cause notre édifice pénal. En gros, on commande un rapport qui dit qu'il ne faut rien changer. Et on change quand même, Laurent Baudin.
Oui, il va falloir éclaircir effectivement ça. Une nouvelle loi, c'est toujours dangereux quand effectivement elle est réalisée sous le coup de l'émotion. Là, le timing va être très serré puisqu'il y a quand même l'élection présidentielle. Donc si c'est fait, on arrive déjà au mois de mai-juin, il va falloir là faire très très attention à ce qui va être fait. En fait, la question qui se pose, c'est... alors il y a évidemment, c'est un crime abject qui a un caractère antisémite. Et je dirais, c'est une circonstance criminelle aggravante. Cet aspect effectivement d'antisémitisme. Mais je pense qu'il faut dépasser cette question-là. Et la question, c'est est-ce que véritablement ce meurtrier était uniquement sous l'emprise de stupéfiants ? Mm-hmm. Effectivement, est-ce qu'il y a eu une organisation de l'altération de sa responsabilité ? Ce qui pourrait à l'avenir poser de nombreuses autres questions. Ou si véritablement il est dérangé psychiquement comme certains experts ont semblé le dire. On a l'impression que les experts ne sont pas tous d'accord dans ce qui est vrai. Dossier.
Effectivement, et notamment l'un des plus réputés, le docteur Zaghuri, qui lui considérait qu'il pouvait être jugé.
Stéphane Vernet, François Molins, le procureur général près de la Cour de cassation, a mis en garde le Parlement contre la tentation de légiférer dans l'urgence, sous le coup de l'émotion, tout en reconnaissant que la loi n'était pas adaptée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, de légiférer dans l'urgence et dans l'émotion ?
Si, moi je pense que oui, et je pense que François Molins a raison de prendre des précautions par rapport à ça. C'est quand même un dossier très très compliqué. Moi je comprends l'émoi, je comprends la colère, je comprends la demande qui est totalement légitime face à la situation, une demande de justice. Mais la justice, c'est pas la vengeance. Or, il se trouve que dans notre pays, on ne peut pas juger des gens qui sont pénalement irresponsables. C'est des fous, tout simplement. Or, la problématique qu'on a là, c'est que apparemment, le meurtrier de Sarah Halimi était sous l'emprise du cannabis. Sauf que ce qui a été dit au cours des procès, parce qu'il y a eu procès quand même, il y a quand même eu deux procès dans cette affaire, contrairement à ce qui est beaucoup dit. Il y a eu deux procédures judiciaires qui ont donné lieu à deux procès et qui disent quoi ? Qui disent qu'effectivement, il était sous l'emprise du cannabis, mais qu'en réalité, il souffre de schizophrénie. On sait aujourd'hui que la prise de cannabis est un facteur déclenchant potentiellement de la schizophrénie. Donc, ce qu'est en train de nous dire Éric Dupond-Moretti, c'est qu'il dit on change la loi, mais pour faire quoi ? Pour dire que finalement, des gens qui seraient schizophrènes, qui ont déclenché une schizophrénie suite à la prise de cannabis, par exemple, pourraient être poursuivis s'ils continuent à prendre du cannabis à partir du moment où la maladie a été détectée chez eux. Je trouve que c'est un peu...
ambigu.
C'est compliqué, surtout. Ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Et dans cette histoire, si vous voulez, encore une fois, il y a eu deux procès. C'est-à-dire que...
Mais je ne le crois pas.
Mais si, il y a eu deux procès.
Non, il y a eu des débats. Il y a eu un débat. Non, mais ce n'est pas un procès.
Alors, le juge d'instruction...
Ce n'est pas un procès. Il y a un débat avec la chambre d'instruction et il y a un débat avec la cour d'appel. Mais ce ne sont pas des procès puisque notamment... le procureur avait demandé qu'il y ait une reconstitution. Elle n'a pas été faite.
Bon,
on ne peut pas dire que c'est un procès.
En tout cas, on suivra...
C'est quand même des procédures. C'est demandé par le juge d'instruction.
C'est des procédures, mais ce ne sont pas un procès.
Le procureur s'exprime, les avocats de la partie civile et les avocats du prévenu.
Oui. On se met d'accord sur le mot procédure.
Ce sont des débats de procédure.
Et j'ajoute que s'il n'y a pas de condamnation pénale, il y a quand même une mesure d'enfermement. On parle d'un monsieur qui est dans un asile psychiatrique depuis 2017 et qui n'est pas prêt d'en sortir. Parce que je vous signale quand même que l'enfermement, pour des raisons psychiatriques, c'est plus compliqué qu'une peine.
Oui, moi, je vous signale simplement qu'il n'y a pas eu de procès parce qu'un procès se tient en présence de
l'accusé. On a bien noté
que
c'était des procédures, Charles
Villeneuve. Ce qui n'a pas été le cas.
On va poursuivre ce débat dans un instant, les grandes voix. On va changer de sujet, avec ces politiques qui n'hésitent plus à faire un lien direct entre terrorisme et immigration. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h42, c'est la suite de votre débat des grandes voix du lundi sur Europe 1. Toujours avec Charles Villeneuve, Laurent Baudin, éditorialiste au journal L'Alsace, Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction du journal Ouest-France à Paris. Alors que la France a été touchée à nouveau par le terrorisme islamiste avec l'assassinat au couteau d'une policière à Rambouillet, la polémique monte sur le profil du meurtrier tunisien arrivé en France clandestinement en 2009, régularisé en 2020. Des responsables politiques, notamment à droite, n'hésitent pas à faire le lien entre attentat et immigration, comme Valérie Pécresse, hier invitée d'Europe 1.
Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Il y a un lien entre le terrorisme et l'immigration, notamment l'immigration la plus récente. Il faut contrôler nos frontières. Il faut travailler sur l'immigration clandestine. Il faut renvoyer les clandestins dans leur pays d'origine.
Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, hier sur Europe 1. Laurent Baudin, on a l'impression qu'il y a un changement de ton quand même des politiques, que désormais ce lien entre immigration et terrorisme est devenu acceptable.
Oui Isabelle, mais il ne vous aura pas échappé qu'il y a une campagne présidentielle qui s'annonce et que la sécurité va être un élément majeur, comme par le passé d'ailleurs, de cette campagne. Donc l'extrême droite et la droite républicaine, pour lesquelles le régalien est tellement important, sont en train de fournir leurs armes. Alors après, le lien, il est aussi évident parce que simplement, le terrorisme n'est pas un problème franco-français, c'est un problème international qui touche tous les pays et qui est aussi exporté, qui est importé pardon, chez nous en France. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est un sujet qui divise autant et qui va faire polémique effectivement de nombreux temps encore.
Stéphane Vernet, immigration et terrorisme, terrain glissant pour le chef de l'État à un an de la présidentielle ?
Oui, manifestement, ça a été très bien dit à l'instant. Bon, après, si vous voulez, moi je trouve que dans l'expression de Valérie Pécresse, il y a un point qui est intéressant, c'est elle dit qu'il y a un lien entre l'immigration et le terrorisme, ce qui peut être contesté à mon avis, mais en disant notamment, on vient de l'entendre à l'antenne, notamment du fait de l'immigration récente. Ça, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant d'étudier et de vérifier. Est-ce qu'elle est en train de nous dire...
C'est vrai qu'elle insiste sur l'immigration récente.
Oui, mais pourquoi ? Parce que je pense que ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle met le doigt sur le fait que dans les dernières vagues d'immigration, les immigrations récentes, il y a pu y avoir des terroristes infiltrés qui venaient de l'étranger. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut travailler, pour lequel il faut trouver des solutions, notamment à travers le renseignement, etc. Enfin, là, il y a quelque chose à... Il y a matière à... Par contre, faire le lien de manière générale entre le terrorisme et l'immigration, je pense que c'est une grossière erreur. Après, je peux vous faire la liste de tous les djihadistes et terroristes français depuis les années 90 qui sont nés en France, qui ont été élevés dans des familles catholiques, qui se sont radicalisés, etc., et qui sont passés à l'acte. Il y en a quand même un petit paquet. Donc,
mais c'est vrai que récemment,
des immigrés qui passent à l'acte.
Oui, mais récemment, l'attaque au hachoir devant les locaux de Charlie Hebdo, la décapitation de Samuel Paty, l'attentat de l'église de Nice, Rambouillet, tous ces terroristes, ils venaient de l'étranger, sont entrés en France clandestinement ou légalement d'ailleurs.
Et hein, c'est pour ça que cette notion cette précision, notamment sur l'immigration récente, elle mérite d'être travaillée. Et là, je pense qu'elle n'a pas forcément tort. Mais attention au raccourci qui consisterait à dire les terroristes sont des immigrés. C'est jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, factuellement, c'est totalement faux, en tout cas de mon point de vue.
Alors, il y a plusieurs responsables politiques qui s'insurgent que désormais, séjourner irrégulièrement en France n'est plus un délit et même que cela n'est plus un obstacle à la régularisation des situations administratives. C'est ce que dit notamment l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, Patrick Stefanini. Est-ce qu'on a péché par facilité en laissant faire, Charles Villeneuve ?
En tout cas, si vous voulez juste une petite précision, dire que le mal terroriste est lié à l'immigration, c'est considérer que chaque immigré est un terroriste en puissance. C'est pour ça que je n'adhère pas non plus à cette expression. Par contre, remettre de l'ordre dans nos lois qui ne sont pas appliquées, par contre, essayer de resserrer les mailles du filet, oui, parce qu'il faut savoir que 2019, le nombre de permis de séjour accordés à l'immigration, notamment étrangère et d'Afrique du Nord et d'un pays pour moi qui est le plus dangereux à l'heure actuelle parce que le plus islamisé, c'est qu'on regarde toujours avec des yeux sympathiques, etc., c'est la Tunisie. Je la connais bien. El Nada a pris maintenant le dessus sur n'importe quel parti politique, il ne faut pas l'oublier.
D'où était originaire le terroriste qui a tué
El Nada a aboli une loi qui faisait des femmes l'égalité des hommes qui avait été votée par l'Assemblée nationale notamment sur le plan de l'héritage, et puis 279 579 permis de séjour en 2019, c'est énorme, c'est beaucoup trop, et surtout sans aucune enquête préalable, etc. Et on voit ce qui peut arriver quand on ne contrôle pas tout à fait les choses. Alors, a-t-on assez de gens ? A-t-on assez de policiers ? Ça, c'est une autre affaire. Mais là où elle a raison, justement, la présidente de l'Île-de-France, c'est qu'il faut insister sur le contrôle avec un peu plus de précision. Il y a une trop grande permissivité dans laquelle le quinquennat, si vous voulez, a abondé indéniablement. Il a renouvelé en 2019, la même année, du nombre de ses permis de jeu, 3 200 000 permis. 3 200 000 permis, essentiellement Tunisie, Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire, et de plus en plus Chine. Mais Chine n'importe pas des terroristes.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on a une une part de responsabilité. On va se retrouver dans un instant, les grandes voix. Allez, on va voir que les boomers n'ont pas du tout apprécié d'être ciblés par Europe Écologie Les Verts. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h50, on est toujours avec nos grandes voix. Laurent Baudin, éditorialiste au journal L'Alsace. Stéphane Werner, rédacteur en chef délégué, directeur de la rédaction du journal Ouest France. Et Charles Villeneuve. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette polémique qui entache l'image, une nouvelle fois, des écologistes. Cette fois, c'est un visuel publié sur le compte Facebook de Julien Bayou, tête de liste aux élections régionales en Ile-de-France et secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Un visuel intitulé « Pour défendre leurs intérêts, les boomers, eux, ont prévu d'aller voter ». Alors initialement, l'idée de cette campagne, c'était de promouvoir l'inscription sur les listes électorales, sauf que très vite, ça a suscité, je le disais, la polémique. François Bayrou y réagissait d'ailleurs hier chez nos confrères de BFM TV.
On ramène toujours les gens à leur couleur de peau, religion, et là, à leur âge. Plus personne n'est regardé comme un citoyen. Pour moi, ça ne ressemble pas à la démocratie, au débat démocratique comme on voudrait le vivre.
On précise que les boomers, ce sont les 60-75 ans. Stigmatiser les plus de 60 ans, on a un peu de mal à comprendre. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement sur un coup de com' totalement rapté d'Europe Écologie Les Verts, Stéphane Werner?
Si, totalement. Alors, de deux choses l'une. Soit cette campagne de pub avait pour objectif de faire savoir aux Français il y a des élections au mois de juin, et à ce moment-là, c'est un coup de génie, c'est jackpot 3 citrons, parce que ça crée une polémique, tout le monde est au courant. Soit il s'agissait pour Écologie Les Verts d'inciter les jeunes à aller voter, et là, je pense qu'ils ont totalement raté le coup, ou totalement raté le coche. Moi, j'appelle ça se faire pipi sur les chaussures.
Ah oui.
Je vous explique pourquoi. Ben oui, soyons clairs. En fait, avec ce type de visuel et ce type de message, forcément, les boomers, donc toute la génération qui est née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se sont insultés, mais vous avez aussi tous les enfants des boomers, par exemple, dont moi je suis, je vais avoir 50 ans le mois prochain, mes parents sont nés en 44 et en 45, je trouve ça insultant pour mes parents. Et si vous voulez, vous crispez deux générations, enfin un petit paquet de gens en fait, qui eux vont aller voter. Et je ne suis pas sûr du tout que les jeunes, qui effectivement ne votent pas suffisamment, iront voter plus pour ces prochaines élections grâce à ce genre de visuel. Donc j'ai envie de dire que Europe Écologie Les Verts, là-dessus, ils perdent sur tous les tableaux. Et puis, je suis d'accord avec François Bayrou, moi, je trouve scandaleux de jouer sur cette fibre-là, parce qu'on crée une fracture entre les générations qui n'a pas lieu d'être et qui ne devrait pas être encouragée. Et encore une fois, je trouve ce message stupide.
Mais il a été retiré, le
Charles
visuel.
Ouais.
Hein.
Attends, oui,
il était
oui,
maladroit
il
et blessant.
Et
Julien Bayrou, qui ne l'avait pas vu, paraît-il.
Ah bon, oui.
Mais qui le couvre, quand même, pour ne pas désapprouver, évidemment, ses collaborateurs qui l'avaient affiché.
Il s'excuse, en tout cas.
S'est excusé.
Alors, il y a un ancien député Europe Écologie Les Verts, Sergio Coronado, qui, lui, justifie hein, cette campagne. Il dit « Votre génération a connu le plein emploi, elle a consommé sans limite, elle n'a pas pris soin de la planète, et vous voulez encore nous expliquer ce que nous devons faire. Vous avez échoué, laissez-nous gérer maintenant. » C'est vrai qu'il y a peut-être une partie de la jeunesse qui pense ça, Laurent Baudin.
Il y a quand même une condescendance. Ces gens-là nous expliquent qu'ils ont raison. D'abord, il va falloir qu'ils le prouvent. Surtout, ils sont désespérants parce qu'il n'y a même pas besoin de green bashing finalement, parce qu'ils font ça très bien. Donc, ils montrent quand même un visage, un certain sectarisme qui, moi, m'inquiète beaucoup parce que la politique, c'est aussi rassembler les gens. Or, nulle part, excepté dans les grandes villes, où effectivement, les grandes villes françaises ne sont pas à l'image des Français. Et on nous explique à chaque fois que c'est l'écologie punitive, etc. Je pense qu'il va leur falloir d'autres campagnes de communication et bien meilleures, effectivement, pour arriver aux responsabilités. Parce qu'il y a une radicalité dans leur programme et dans leurs paroles qui, à mon avis, n'est pas acceptable pour une majorité de Français.
Et puis, il y a aussi une malédiction, quand même, des petites polémiques. Charles Villeneuve qui frappe les écolos, ce n'est pas la première fois. Hein. On a eu l'aéroclub de Poitiers avec la fin des subventions. L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Le club de voile de Vincennes.
Le Tour de France.
Le Tour de France.
Enfin, c'est déjà plus ancien.
Oui. Enfin, bon, il y a quand même eu beaucoup de petites polémiques.
Mais là, ils vont être réconfortés. Il y a Eva Joly, la candidate des Verts à la présidentielle de 2012. Qui vient en renfort de Sergio Coronado.
Ah oui.
Donc ça va, quoi. Il va recoller les morceaux, soyons-en
oui.
sûrs.
On comprend votre ironie. En tout cas, jouer le choc des générations, ça peut payer, peut-être, électoralement, pour Europe Écologie Les Verts. On sait que c'est un électorat quand même plutôt jeune, qui se tourne vers les écolos. Ça peut les mobiliser, non? Vous dites tous, vous dites ici, c'est raté.
Je suis très sceptique, effectivement, c'est ce qui était dit tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas de raison de braquer des générations les unes contre les autres pour faire avancer, effectivement, un combat qui est juste, qui est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a d'autres méthodes pour y arriver.
Mais c'est vraiment une malédiction ou est-ce qu'on cible à chaque fois volontairement? Est-ce que c'est un calcul, selon vous, Stéphane Vernet?
Moi, je crois que c'est de la maladresse, en fait.
C'est juste de la maladresse.
J'ai du mal à croire qu'ils font ce qu'ils font. Ouais, j'ai du mal à croire qu'ils fassent ça par calcul, parce que c'est vraiment un mauvais calcul. Après, la problématique des Verts, c'est qu'ils savent qu'effectivement, leur thématique, leurs idées, les grands principes qu'ils défendent, ils ont percolé dans la jeunesse. Donc, ils ont besoin du vote des jeunes. Sauf que c'est une jeunesse aussi, aujourd'hui, qui a pris tellement de distance vis-à-vis de la chose publique, qui a un regard tellement critique sur la politique, sur les façons classiques d'en faire, j'ai envie de vous dire, qu'ils ne vont pas voter. Les seuls jeunes les jeunes qui votent le plus aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, mais c'est ceux qui votent Rassemblement National. Donc effectivement, ils ont besoin de mobiliser cet électorat-là. Ils savent que l'abstention leur fera du tort. Mais là, je trouve que la méthode qui est choisie est vraiment une méthode indigne. On n'oppose pas la jeune génération à l'ancienne génération. C'est profondément injuste pour les gens qui nous ont précédés, parce que je suis désolé, ce n'étaient pas tous des gros pollueurs. Ce n'est pas vrai. Et l'image qui est donnée, en fait, elle est très mauvaise. D'abord pour Europe Écologie Les Verts. Je trouve que c'est pas une méthode. Si vous ne rassemblez pas, si vous cherchez à diviser pour gagner des voix, je trouve que je sais que c'est une pratique très courante. Enfin, je trouve que si c'est ça leur seul argument, excusez-moi, mais ils sont mal partis.
On verra ce que ça donnera en tout cas. Merci beaucoup. Merci les grandes voix du lundi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.